Une relation avec l'autre. Je voudrais commencer ce matin par une illustration. Quelle est la personne la plus forte ici aujourd'hui? Regardez autour de vous. Nous pouvons faire venir deux ou trois personnes sur scène. Maintenant, je vais vous demander de casser ce crayon. Pensez-vous qu'elle peut le faire? Casse le crayon. C'est très bien. Je vais maintenant ajouter d'autres. Pensez-vous qu'elle peut le faire? Il ne se casse pas. Je vous remercie de votre attention. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je parie que vous pouvez le deviner. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. La Bible dit que vous n'avez jamais été destiné à vivre la vie chrétienne seule, comme ce crayon. Vous êtes censé vivre en communauté, dans l'Église. Et plus vous êtes lié à l'Église, plus vous serez fort, comme le paquet de crayons. Ces dernières semaines, nous nous sommes penchés sur le fait que Dieu nous a créés pour les relations. Dans le jardin, Dieu a dit qu'il n'était pas bon pour nous d'être seuls. La semaine dernière, nous avons examiné la question de la relation avec Dieu. Cette semaine, pour le dernier sermon de cette série, j'aimerais que nous examinions ce que la Bible dit au sujet de la relation avec les autres. Votre relation avec l'Église. Votre relation les uns avec les autres. Le Nouveau Testament contient plus de 50 commandements, l'un pour l'autre. Il s'agit de commandements que nous devons nous adresser les uns aux autres en tant que croyants. Nous aimer, nous pardonner, prier les uns pour les autres. Mais le problème de ces commandements réciproques, c'est qu'on ne peut pas y obéir tout seul. On ne peut pas y obéir seul. Il faut faire partie d'une église pour y obéir. Alors comment pouvons-nous adopter un état d'esprit l'un pour l'autre? Comment passer d'une pensée individuelle à une pensée collective en tant que corps du Christ? C'est ce que j'aimerais que nous examinions ce matin. Si vous avez une Bible, veuillez vous reporter à Colossiens 3. Nous avons 5 versets l'un l'autre dans Colossiens 3. 3. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où est le Christ assis à la droite de Dieu. 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. 4. Lorsque le Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pour avoir un état d'esprit l'un pour l'autre, vous devez d'abord rechercher les choses du ciel. Vous devez rechercher les choses de Dieu. Vous devez regarder vers le haut. Vos yeux doivent être fixés sur le Christ, l'auteur et l'accomplissement de notre foi. Naturellement, nous voulons regarder vers le bas. Naturellement, nous regardons les choses qui sont sur terre. Naturellement, nous regardons nos problèmes. Il est facile de regarder vers le bas et de ne penser qu'à soi. Mais Paul nous rappelle de lever les yeux, de penser au Seigneur. Il dit que notre ancienne vie est morte et disparue, et que maintenant que nous connaissons le Christ, nous avons été rendus vivants. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Tout comme Jésus est ressuscité des morts 3 jours après sa crucifixion, vous êtes ressuscités de la mort spirituelle. Vous êtes nés de nouveau. L'ancien est passé. Vous êtes une nouvelle création. Vous avez été libéré. Vous avez une nouvelle perspective. Tu es appelé à vivre d'une manière nouvelle. Cherchez donc les choses d'en haut, là où est le Christ, assis à la droite de Dieu. Paul dit « Regardez en haut ». Il dit au verset 3 que votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes mort avec le Christ, vous êtes ressuscité avec le Christ, et vous appartenez au Christ. Et le verset 4 nous promet que lorsque Jésus reviendra, nous aurons un avenir glorieux avec lui. Alors comment faire? À quoi ressemble le fait de s'attacher aux choses d'en haut afin d'avoir un état d'esprit l'un pour l'autre? 5. Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Si, c'est à cause de cela que la colère de Dieu va venir. Avant de nous dire comment vivre une vie d'entraide, Paul nous parle des péchés qui vous empêcheront de vous aimer les uns les autres. Il est difficile de se soucier les uns des autres quand on lutte contre les péchés de la chair. Il est difficile de penser aux autres quand on vit dans l'obscurité. Dans les 4 premiers versets du chapitre 3, Paul dit qu'il faut regarder en haut et s'attacher aux choses d'en haut. Les versets suivants parlent du moment où l'on regarde en bas et où l'on s'occupe des choses de la terre. Cette première liste de péchés concerne principalement les péchés sexuels. Dans la Bible, l'immoralité sexuelle fait référence à toute activité sexuelle en dehors de la relation entre le mari et la femme. Il y a quelques semaines, nous avons examiné la relation entre le mari et la femme dans Genèse 2. Nous avons examiné le dessein de Dieu pour le mariage et l'intimité. Nous avons vu que « si » n'est pas une mauvaise chose, mais que le sexe est une grande chose. Le sexe a été inventé et conçu par Dieu. Mais Dieu a toujours voulu qu'il soit vécu avec joie dans le mariage. L'image du verset 5 va à l'encontre du dessein de Dieu sur la sexualité, et Paul dit de faire mourir ses péchés. Il ne s'agit pas d'une approche du péché fondée sur le « laisser faire », comme le diraient les Français. Au contraire, Paul nous ordonne fermement d'éteindre ses péchés. Et nous voyons ici que soit vous mettez le péché à mort, soit vous le laissez vivre. Et si vous le laissez vivre, il grandira sûrement et prendra plus de place dans votre vie. Aujourd'hui, l'immoralité sexuelle est omniprésente. D'une certaine manière, vous n'avez pas besoin de la chercher car elle vous trouvera. La question est de savoir si vous vous battez contre elle ou si vous la laissez entrer dans votre vie. Où les laissez-vous entrer dans votre vie? Avez-vous une activité sexuelle en dehors du mariage? Avez-vous des pensées impures? Vous regardez régulièrement de la pornographie? Flirtez-vous avec la femme d'un autre homme? Vous courez après le mari d'une autre femme? Ne laissez pas ces péchés vivre, grandir et s'installer en vous. Cherchez plutôt à les faire mourir par la puissance de Jésus-Christ. 7. Vous aussi, vous avez marché autrefois dans ces voies lorsque vous viviez en elles. 8. Mais maintenant, vous devez les bannir toutes. La colère, l'emportement, la malice, la calomnie et les paroles obscènes de votre bouche. 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous vous êtes dépouillés du vieux moi et de ses pratiques 10, et que vous avez revêtu le nouveau moi, qui se renouvelle dans la connaissance, à l'image de son Créateur. Le verset 5 était une liste de péchés sexuels, et maintenant les versets 8 à 9 sont des péchés sociaux, disons. Ce sont des péchés qui affectent d'autres personnes, y compris d'autres croyants. La colère, l'emportement, la malice, la calomnie, il s'agit d'attaquer d'autres personnes avec vos paroles. C'est faire des commérages sur d'autres personnes. C'est parler de manière imprudente. Au verset 9, nous avons le premier verset l'un l'autre du chapitre 3. Paul dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres ». Vous pourriez dire « Quoi, les chrétiens ne se mentiraient jamais les uns aux autres ?» les chrétiens disent toujours la vérité. Eh bien, j'aimerais que ce soit vrai. Mais nous voyons ici que les croyants sont capables non seulement de mentir, mais de se mentir les uns aux autres. Jésus a dit que c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Qu'y a-t-il à l'intérieur de votre cœur? Nous devrions utiliser nos paroles pour construire et non pour détruire. Nous devons dire la vérité dans l'amour. Nous devons utiliser nos paroles pour bénir et non pour maudire. Au verset 7, Paul dit que ces péchés caractérisaient leur vie avant de suivre le Christ, mais qu'ils doivent maintenant être bannis. La colère, l'emportement, la malice, la calomnie, les paroles obscènes, le mensonge. Il est temps de faire mourir ces choses. Ces choses n'honorent pas Dieu et ne sont pas caractéristiques de notre nouvelle vie en Christ. Au verset 9 et 10, Paul utilise cette métaphore de se revêtir et de se dépouiller. Il dit qu'il faut se défaire de l'ancien moi avant de connaître le Christ et revêtir le nouveau moi, la nouvelle vie que le Christ nous donne. En d'autres termes, il est difficile de s'aimer et de prier l'un pour l'autre si l'on se ment encore. Il faut se débarrasser de l'ancien moi pour revêtir le nouveau. Il s'agit ici de vêtements. On enlève les vieux vêtements et on met les nouveaux. Les vieux vêtements représentent notre vie avant de suivre Jésus, et les nouveaux vêtements représentent notre nouvelle vie en lui. Les verbes sont au passé, ce qui signifie que ces choses ont déjà eu lieu, mais Paul nous encourage à aligner notre comportement sur la réalité de notre vie en Christ. À l'âge de 10 ans, je suis allée dans un camp de vacances pendant une semaine. C'était une semaine amusante. Nous avons couru partout. Nous avons fait du sport, on bougeait beaucoup, et le mouvement produit de la sueur. Et la sueur produit une odeur, généralement une mauvaise odeur. L'un des derniers jours du camp, j'ai pris une douche et je m'apprête à m'habiller. Mais en regardant dans mon sac, je me rends compte que je n'ai plus de vêtements propres. Je n'ai pas pris assez de vêtements. Je regarde alors ma pile de vêtements sales de la semaine. Ces vêtements sales, transpirants et puants qui sentent comme l'odeur d'un garçon de 10 ans. 34 ans plus tard, je me souviens encore de ce que j'ai ressenti. C'était dégoûtant. Je venais de prendre une douche, mais enfiler ces vêtements malodorants me dégoûtait. Je me suis donc dit, plus jamais ça. Aujourd'hui, lorsque je voyage, j'emporte toujours plus de vêtements propres qu'il n'en faut. Paul dit ici que dans notre relation avec le Christ, nous avons reçu des vêtements neufs et propres. Nous avons reçu de nouvelles pratiques qui honorent Dieu. Pourquoi donc reviendrions-nous à ces vieux vêtements sales, transpirants et puants? Pourquoi reviendrions-nous à ces vieilles pratiques et à ces péchés qui n'honorent pas Dieu? Paul dit, « Revêtez le nouveau vous qui est transformé par le renouvellement de votre intelligence en Christ. » 11 ici, il n'y a pas de grec et de juif, de circoncis et d'incirconcis, de barbare et de scythe, d'esclave et d'homme libre. Mais le Christ est tout et en tous. L'église de Colosse était divisée par des classifications humaines. Elle était divisée par ses nationalités. Ils étaient divisés par leurs traditions. Ils étaient divisés par leur classe, leur statut et leur titre. Mais Paul dit qu'il s'agit là d'une pensée terrestre. Il s'agit là d'un comportement vieux comme le monde. Quand je regarde autour de moi, je vois des gens qui viennent de différents endroits du monde. Je ne pense pas que Paul dise que je devrais essayer de ne pas voir cela. Ce serait impossible. Ce serait faire semblant. Je pense que ce que Paul veut dire, c'est que notre nationalité, nos traditions, notre statut socio-économique, nos titres professionnels sont pas les choses les plus importantes à notre sujet. La chose la plus importante est notre identité en Christ, qui est tout et qui est en nous tous. Si nous regardons seulement vers le bas, nous verrons nos différences terrestres, nos différences culturelles, nos différentes expériences et traditions, nos préférences. Mais si nous regardons vers le haut, si nous nous concentrons sur les choses du ciel, nous verrons que nous adorons tous Jésus-Christ. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Voilà donc les choses à remettre à plus tard. Ce sont les choses à mettre de côté. Ce sont les choses terrestres qu'il faut faire mourir. Que devons-nous donc revêtir? Quels sont les nouveaux vêtements qui nous sont offerts? 12. Revêtez donc, en tant qu'élus de Dieu, saints et bien-aimés, un cœur compatissant, de la bonté, de l'humilité, de la douceur et de la patience. En tant que peuple élu de Dieu, ses fils et filles précieux, nous devons revêtir les habits neufs. Paul nous dit d'être compatissants, gentils, humbles, doux et patients. Ces qualités sont les marques du caractère chrétien. Le monde peut récompenser les personnes arrogantes et autoritaires, mais l'Église est appelée à être remplie de personnes gracieuses et humbles, et non fière et arrogante. Jésus a dit « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Jésus a dit « Quiconque s'élève sera abaissé, mais que quiconque s'abaisse sera élevé ». La compréhension de l'Évangile nous aide à revêtir ses vêtements. Lorsque nous comprenons que c'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés, par la foi en Jésus-Christ, que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait pour pouvoir me vanter, que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance, alors je devrais me retourner et être aussi compatissant et patient que Dieu l'est envers moi. Pensez à ces derniers jours. Avez-vous été gentil avec quelqu'un cette semaine? Avez-vous fait passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les vôtres? Dieu dit, soyez bon, soyez compatissant, soyez humble, soyez patient. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à faire mourir le péché. Il s'agit aussi de revêtir ces choses. Y a-t-il quelqu'un avec qui vous pourriez être gentil cette semaine? Y a-t-il quelqu'un envers qui vous devez faire preuve de patience? Si vous priez et demandez à Dieu, je crois que le Saint-Esprit vous donnera des occasions cette semaine de faire ces choses. 13. Supportez les uns les autres, et si l'un a quelque chose à se reprocher, se pardonnez mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez aussi. Le verset 13 contient de nombreux « l'un l'autre ». Le premier est « supportez-vous les uns les autres ». L'idée est de se tolérer les uns les autres. Bien sûr, nous ne devrions pas tolérer les faux enseignements. Mais ici, l'idée est que vous êtes dans une communauté chrétienne avec des personnes avec lesquelles vous ne seriez pas normalement amis. Bien sûr, c'est formidable d'avoir des frères et des sœurs en Christ qui nous ressemblent à bien des égards. Mais vous n'êtes pas seulement appelés à aimer les personnes de l'Église qui vous ressemblent ou que vous appréciez. Vous êtes également appelés à aimer ceux qui sont différents de vous. Faire partie d'une Église ne consiste pas à trouver sa clique, à ne parler qu'avec elle et à tenir les autres à l'écart. Et plutôt d'essayer de se rapprocher de tout le monde dans la mesure du possible. Paul va plus loin lorsqu'il dit « si quelqu'un a un reproche à faire à quelqu'un ». Dans la langue grecque, il existe différents niveaux d'expression d'une phrase conditionnelle ou d'une phrase « si ». Ici, Paul utilise le conditionnel de troisième classe, ce qui signifie que le futur est très probable. Paul dit donc, « Si quelqu'un a une plainte contre vous, et vous devez savoir que cela arrivera, vous devez lui pardonner. » Paul ne dit donc pas que l'Église n'aura pas de conflit. Au contraire, Paul dit que l'Église réagira au conflit de manière très différente du reste du monde, parce qu'elle sait ce que signifie être pardonné en Christ. Permettez-moi de dire que si vous n'avez jamais eu de conflit avec un frère ou une sœur en Christ, je doute que vous ayez déjà fait l'expérience d'une communauté chrétienne réelle et authentique. Ou, pour le dire plus clairement, si vous n'avez jamais eu de conflit avec un frère ou une sœur en Christ, vous êtes probablement très doué pour la gentillesse. Être gentil n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose si vous n'êtes pas authentique. Paul dit ici qu'il y aura des conflits dans l'Église. Mais les conflits ne sont pas mauvais. Les conflits peuvent être bons, les conflits peuvent être sains. Tout dépend de la manière dont vous le gérez. Si vous le gérez de manière immature, le résultat sera mauvais. Mais si vous le gérez de manière responsable et mature, la relation est généralement plus forte de l'autre côté. Encore une fois, ces versets impliquent qu'il y a une relation. Vous ne devez pas supporter quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Vous n'aurez jamais à vous plaindre de quelqu'un d'autre si vous ne passez jamais de temps avec lui. Et vous n'aurez jamais à pardonner à quelqu'un si vous ne lui parlez jamais. Ces versets impliquent qu'il y a une relation, et les relations seront toujours désordonnées parce que les relations impliquent des personnes. Mais vous ne pouvez pas accomplir le verset 13 si vous n'êtes pas en relation avec l'Église de Dieu. Il n'existe pas d'Église parfaite, il y aura des conflits, mais Dieu vous a appelé à faire partie de la solution. Dieu vous a appelé non seulement à être compatissant et gentil, mais aussi à être aimant et à pardonner, ce qui exige que vous fassiez partie de l'Église, du corps du Christ. Vous devez être en relation les uns avec les autres. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui lie tout dans une parfaite harmonie. Quel est donc le vêtement le plus important? Qu'est-ce que Paul dit être la chose la plus importante à revêtir? L'amour. Jésus a dit que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Le deuxième commandement est d'aimer son prochain comme soi-même. Misez avant tout sur l'amour. Il réunit tout en parfaite harmonie. L'une des plus belles choses au monde et d'écouter une chorale. Dans une chorale, tout le monde ne chante pas la même chose. Il y a des voix différentes qui chantent des parties différentes, et ces différentes parties s'harmonisent les unes avec les autres. Et lorsque ces différentes voix et parties s'unissent, la musique qu'elles produisent est magnifique. Elle est plus grande que toute la musique qu'une seule personne pourrait faire. Esther, c'est la même chose pour l'Église. Vous êtes censé faire partie d'un chœur, pas d'un solo. On ne peut pas chanter l'harmonie tout seul. Alors, comment maintenir l'unité et l'harmonie? Cela commence par l'amour. C'est l'amour qui nous lie en tant que communauté dans le Christ. L'uni passe par le fait de s'aimer les uns les autres. Nous ne serons pas parfaits. Nous ferons encore des erreurs. Mais, comme le dit la Bible, l'amour couvre une multitude de péchés. Paul dit que la priorité sur tous ces autres bons commandements est simplement de s'aimer les uns les autres. 15. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car c'est à elle que vous avez été appelés en un seul corps. et soyez reconnaissants. La Bible dit que par le salut en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Nous ne sommes pas seulement des artisans de la paix, mais aussi des artisans de la paix, si vous voulez. Nous avons une paix qui surpasse toute compréhension. Elle vient de l'intérieur et sort de l'extérieur. Nous vivons dans un monde chaotique et occupé. Les gens sont stressés, les gens sont anxieux et fatigués. Mais même si nous vivons dans ce monde, nous ne devons pas fonctionner comme le monde. La paix qui est en nous doit rayonner à l'extérieur. Laissez la paix du Christ régner dans votre cœur et soyez reconnaissant. Ne passez pas votre temps à penser à ce que vous n'avez pas. Remerciez Dieu pour les nombreuses choses qu'il vous a données. Sachez que la parole du Christ habite en vous avec abondance, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres en toute sagesse, chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels avec des cœurs reconnaissants envers Dieu. Ce matin, nous étudions le verset 16. En ce moment même, je vous prêche la parole de Dieu. Mais je ne le fais pas seulement parce que c'est quelque chose que nous faisons le dimanche. Je le fais pour que la parole de Dieu habite richement en vous. Le mot « habiter » signifie ici « élire domicile ». En d'autres termes, si votre vie est comme une maison, il s'agit de laisser les paroles du Christ et de la Bible s'installer dans toutes les pièces de votre maison. Cela signifie qu'il faut laisser Dieu parler par sa parole dans tous les aspects et toutes les parties de votre vie. Ne pas le laisser entrer dans une seule pièce, mais le laisser entrer dans toute la maison. Mais ce verset dit qu'il faut s'enseigner et s'exhorter les uns les autres en toute sagesse. C'est encore un autre verset. Oui, en ce moment, c'est un temps formel d'enseignement. Mais cela ne signifie pas que tout enseignement se termine pour la semaine lorsque je dis « Amen ». Non, nous sommes appelés à nous enseigner et à nous exhorter les uns les autres. Ce qui signifie que la parole de Dieu devrait sortir de nos bouches les uns pour les autres le lundi, le mardi, le vendredi. Oui, Dieu a appelé certains à être des enseignants formels. Mais si la parole de Dieu habite richement en vous, alors vous avez quelque chose à partager avec le peuple de Dieu. Il y a tant de fois que je rencontre certains d'entre vous et que vous partagez quelque chose que Dieu vous enseigne à partir de sa parole et devinez ce qui se passe. J'apprends. J'apprends de vous. Ce n'est pas unilatéral. Nous apprenons et grandissons ensemble. La réprimande est l'aspect correctif de la parole de Dieu. Lorsque nous nous égarons, nous nous réprimandons mutuellement à travers la parole de Dieu et nous nous aidons les uns les autres à revenir sur la bonne voie. Nous voyons aussi que nous chantons ensemble. Pourquoi chantons-nous ensemble le dimanche? C'est à cause du verset 16. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la musique dans l'Église primitive. Quels instruments de musique utilisaient-ils? Nous ne le savons pas vraiment. Combien de chansons chantaient-ils chaque dimanche? Nous ne le savons pas vraiment. À quoi ressemblaient les paroles? Nous ne le savons pas vraiment. Nous disposons d'une grande liberté à cet égard. Ce que nous savons, c'est qu'ils chantaient ensemble. Ils ont utilisé leur voix pour louer le Seigneur. Ils ont utilisé leur voix pour rendre grâce à Dieu. La qualité de votre voix ne compte pas pour Dieu. C'est la position de votre cœur lorsque vous chantez qui est la plus importante. Dernier verset. 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Paul dit que dans tout ce que nous faisons en parole ou en action, nous devons tout faire au nom de Jésus. Cela signifie que notre caractère doit refléter celui du Christ lorsque nous rendons grâce à Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, vous ne pouvez pas accomplir ces commandements les uns envers les autres par vous-même. Vous ne pouvez remplir ces commandements qu'en faisant partie d'une église locale. Parfois, les églises commettent l'erreur de ne pas avoir l'esprit du royaume et de ne penser qu'à leur église. Ainsi, une église pense à tort qu'elle est la seule à faire de bonnes choses et ne pense pas aux autres églises autour d'elle qui font également de grandes choses pour le Seigneur. Elle ne pense qu'à son église, au lieu de penser au royaume de Dieu. Mais les croyants peuvent commettre l'erreur de n'avoir qu'une mentalité de royaume et de ne pas s'attacher à une église locale. Ils prient et lisent la Bible, vont peut-être même à l'église le dimanche, mais ne s'attachent jamais à une église pour expérimenter l'aspect l'un l'autre de la vie chrétienne. Mais comment s'aimer, comment se servir, comment se réconforter, comment s'encourager, comment se pardonner? Si l'on n'est pas rattaché à une église locale, réponse, vous ne pouvez pas. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous souhaitez faire un pas dans cette direction, c'est une excellente journée. Une fois que nous aurons terminé ici, au premier étage, nous aurons notre cours « Je suis nouveau ». C'est peut-être votre premier dimanche parmi nous, ou peut-être venez-vous depuis quelques mois, mais c'est l'occasion pour vous d'en savoir plus sur l'Église et de rencontrer d'autres personnes qui sont nouvelles. Le déjeuner sera également offert. C'est donc un premier pas, mais peut-être n'êtes-vous pas nouveau ici, vous êtes ici depuis un certain temps, mais quelque chose vous a retenu. Peut-être avez-vous eu une mauvaise expérience avec une église dans le passé. Je ne peux pas vous promettre que cette église sera parfaite, car il n'y a pas d'église parfaite. Les églises sont pleines de gens et les gens peuvent être désordonnés. Mais je peux vous promettre que nous essayons. Nous essayons, par la grâce de Dieu, de revêtir les habits neufs de l'humilité, de la douceur, de la patience et de la bonté. Voulez-vous essayer avec nous? Peut-être luttez-vous contre des choses terrestres, des péchés sexuels ou des péchés sociaux, et ces choses vous empêchent de vous connecter à l'Église de Dieu et de faire l'expérience de l'aspect l'un pour l'autre de la vie chrétienne. Ne laissez pas ces péchés vivre, grandir et s'installer dans votre vie. Au contraire, par la puissance du Christ, cherchez à faire mourir ces péchés. Cherchez les choses d'en haut et non celles d'en bas. Je voudrais donc terminer en donnant à chacun d'entre vous un crayon. Et je veux que ce crayon représente votre vie spirituelle. Vivez-vous votre vie chrétienne en solitaire? Ou êtes-vous attaché à une église locale? Il n'est pas nécessaire que ce soit cette église. L'essentiel est que vous soyez rattaché à une église locale où vous pouvez vous aimer, vous servir et prier les uns pour les autres. Tu te souviens, quand les crayons étaient tous ensemble, il était impossible de les casser. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Plus vous serez en relation avec le peuple de Dieu, plus vous serez fort. Oui, il y aura encore parfois des conflits. Oui, vous devrez supporter d'autres personnes. Oui, vous devrez parfois demander pardon ou pardonner à quelqu'un d'autre, mais c'est toujours le cas lorsque vous êtes en relation réelle avec d'autres personnes. Alors que nous chantons ensemble, je veux que vous teniez votre crayon et que vous priez. Parlez à Dieu de votre relation avec son Église, puis dans un instant nous allons distribuer des élastiques. C'est l'occasion de lier votre crayon à d'autres crayons de cette église. C'est le moment de dire, « Je ne veux pas mener cette vie spirituelle tout seul. Dieu, je veux le faire avec ton peuple. » Maintenant, je veux que vous soyez honnête avec vous-même. Ne mettez pas votre crayon dans le paquet parce que la personne à côté de vous l'a fait. Si vous n'êtes pas prêt à mettre votre crayon dans le paquet aujourd'hui, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de pression. Prenez-le chez vous et cherchez le Seigneur dans la prière à ce sujet. Mais faites quelque chose de votre crayon. Faites un pas dans votre vie spirituelle avec l'Église du Christ.